Merci d'écouter RFI, les 8h à Paris, 7h en temps universel, 10h à Damas.
RFI Matin.
Le journal de Jeanne Bartoli et à la une, elle avait annoncé officiellement la fin du régime de Bachar al-Assad.
Depuis écran noir pour la télévision d'État syrienne, une nouvelle télévision devrait voir le jour à Damas. Nos envoyés spéciaux ont poussé la porte des locaux de cette institution de la censure depuis maintenant 50 ans. Et puis nous serons en direct également du plateau du Golan, occupé et annexé par Israël depuis plus d'un demi-siècle. L'armée israélienne a pénétré ces derniers jours dans la zone tampon entre le Golan occupé et la Syrie. Reportage avec Sami Boukhelifa. À la une aussi, la nomination d'un Premier ministre qui se fait attendre en France. Il doit être annoncé d'ici ce soir. Le paludisme en hausse pour la 5e année consécutive dans le monde. L'OMS en alarme. Et puis alors que la COP16 sur la désertification et la dégradation des terres se tient en ce moment, la France s'est déclarée pour la première fois également concernée par la désertification. Explication à la fin de ce journal.
L'ONU réclame une transition inclusive pour éviter une nouvelle guerre civile en Syrie.
Déclaration hier de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geert Pedersen. Antonio Guterres déclare de son côté que l'ONU est totalement engagée à soutenir une transition en douceur. Nouveau message donc à l'adresse des rebelles syriens et du Premier ministre de transition, Mohamed al-Bachir, qui a multiplié hier les déclarations qui se veulent rassurantes sur le respect des minorités et des droits humains. Déclarations de principe qui devront être suivies des fait dans une Syrie qui a connu une censure féroce ces 50 dernières années, symbolisée notamment par la télévision d'État. Elle n'émet plus depuis la chute de Bachar al-Assad. Une nouvelle télévision devrait voir le jour. Nos envoyés spéciaux à Damas, Muriel Paradon et Boris Vichit, ont pu pénétrer dans les bâtiments de cette télévision d'État et rencontrer certains salariés, techniciens et journalistes. Ils espèrent une nouvelle ère.
Dans les locaux de la télévision d'État, les portraits de Bachar el-Assad ont été jetés à terre. Dans le studio principal, les caméras sont toujours là, mais le fauteuil du présentateur est vide. Tout est à l'arrêt pour l'instant. Bachar Ziadeh est technicien.
Voici le studio principal du journal télévisé du président déchu Bachar al-Assad. C'est ici qu'on enregistrait les programmes d'actualité. Partout, il y avait les emblèmes et les drapeaux du régime. Et maintenant, il y a des drapeaux de la révolution.
La télévision d'État était un organe de propagande du régime déchu. Mohamed al-Sayed y a travaillé pendant 25 ans. Il assurait le lien avec le palais présidentiel. Il est toujours là aujourd'hui et espère que le système va changer avec les rebelles.
Avant, on n'avait pas le droit de diffuser la moindre information sans recevoir l'accord préalable de la présidence de Bachar al-Assad. Et tout passait par mon bureau. S'il y avait quelque chose de vraiment urgent, c'était directement diffusé du palais présidentiel.
Aït Sleiby est un jeune journaliste qui a grandi avec la révolution. Il vient de rencontrer les nouveaux responsables de la télévision et espère bientôt y travailler.
J'espère qu'on aura une presse vraiment libre. On ne s'est pas battu pendant 14 ans pour passer d'une propagande à l'autre. Nous devons pouvoir critiquer le président et le pouvoir et garder un pluralisme médiatique et politique.
Les espoirs de ce journaliste se réaliseront-ils ? L'avenir le dira. Muriel Paradon, Boris Vichit, Damas, RFI.
Et pendant ce temps, sur le terrain, l'armée israélienne a de nouveau frappé cette nuit des sites militaires de l'armée syrienne.
Dans les provinces de Latakié et de Tartous, depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a mené des centaines de bombardements. L'armée israélienne qui a pénétré également dans la zone tampon entre le Golan occupé et la Syrie. Le plateau du Golan, territoire syrien, illégalement occupé puis annexé par Israël depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Et que Benjamin Netanyahu a déclaré israélien pour l'éternité. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial permanent à Jérusalem. Bonjour Sami Boukhelifa.
Bonjour à tous.
Vous nous emmenez ce matin, Sami, dans le village de Majal Sham, sur le plateau du Golan, sur la ligne de cessez-le-feu.
Il y a une barrière métallique grillagée,
there's a land over there.
Surplombée de fils barbelés. Elle coupe un territoire en deux.
Donc soyez nos yeux, où est-ce qu'on est exactement? Where are we?
We are standing exactly next to the ceasefire line.
Nous sommes exactement sur la ligne de cessez-le-feu.
Which is not border.
Officiellement, cette ligne n'est donc pas une frontière.
We don't call it border.
Précise Yasser Khanjar.
This land belongs to Syria.
Elle voit le jour en 1974 suite à un accord qui met formellement fin à la guerre de Kippour entre Israël et la Syrie. Et de part et d'autre de cette barrière, c'est la Syrie, explique ce militant politique. Vivre dans un territoire annexé par Israël ne change rien pour lui. ils se considèrent syriens et uniquement syriens.
Alors, avec la chute du régime de Bachar al-Assad, Sami, Israël a envoyé ses troupes de l'autre côté de cette barrière que vous nous décrivez.
L'engin de chantier que l'on entend est un bulldozer de l'armée israélienne. Il trace dans cette zone tampon une nouvelle route empruntée désormais par les chars et les blindés israéliens qui sont allés se poster sur la colline en face qui domine la vallée avec à l'horizon Damas. Officiellement, Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée israélienne de prendre le contrôle de cette zone tampon de façon temporaire et pour des raisons de sécurité. Mais Yasser Khanjar n'y croit pas du tout.
They are doing this in West Bank.
Les Israéliens s'approprient la terre en Cisjordanie.
They are doing this in Gaza.
À Gaza.
The Israelis want all the time.
Les Israéliens s'approprient toujours plus de terre.
The colonialism of
C'est leur politique de colonisation, s'accaparer toujours plus de terre.
As much you can take, take.
Voilà, et pourtant, Sami, avec la chute de Bachar al-Assad, les habitants du Golan occupé et annexé par Israël rêvent désormais d'être rattachés à leur foyer national, la Syrie.
Ici à Majd al-Shams, on regarde la télévision syrienne.
Our Arabic is Syrian Arabic.
On parle l'arabe syrien.
You see, our food is the same.
La gastronomie est syrienne.
Traditions,
les coutumes
and our customs
et les traditions sont syriennes. Le docteur Thaher Abou Salah est issu d'une grande famille arabe du Golan et c'est au nom de sa communauté qu'il s'exprime. Il est très heureux de ce qui est arrivé en Syrie. Il a tant souhaité la chute du régime de Bachar al-Assad. C'est chose faite. Alors désormais, il espère l'émergence d'une démocratie en Syrie. Car seule une démocratie parviendra à réimposer sa souveraineté sur le plateau du Golan. Il y a toutefois de l'inquiétude. L'idéologie islamiste des nouveaux maîtres du pays. Il espère que les Syriens ne commettront pas les mêmes erreurs. Le nouveau leader, Al-Julani, a renoncé à son nom de guerre. Il s'appelle de nouveau Al-Shara. Et il dit que le pays appartient à tous les Syriens. Dans le Golan, la majorité des 27 000 Syriens sont druzes et malgré l'annexion, trois quarts d'entre eux ont refusé la nationalité israélienne.
Sami Boukhalifa, envoyé spécial sur le plateau du Golan, merci. Reportage que vous retrouvez sur RFI.fr et ses opérations israéliennes dans la zone tampon, c'est-à-dire dans la zone interdite à l'armée israélienne ainsi qu'à l'armée syrienne. Elles sont sans fondement au regard du droit international, c'est ce qu'ont rappelé hier des experts de l'ONU affirmant que le désarmement préventif mené par Israël avec ses frappes sur le territoire syrien ouvrait la porte au chaos mondial. Le désir de rattachement de certains habitants du Golan à la Syrie, le désir de retour aussi pour les près de 8 millions de Syriens qui vivent en dehors des frontières de leur pays, poussés à l'exil par la guerre et la répression du régime Assad. Ils observent les événements de près et ils se questionnent également sur l'opportunité d'un retour immédiat ou non. En France, 45 000 ressortissants syriens ont le statut de réfugiés. Près d'un quart environ l'ont obtenu il y a plus de 10 ans, c'est-à-dire au début de la guerre civile syrienne. Ils ont souvent depuis reconstruit leur vie en France, comme Iyad, un trentenaire que Marie Cazadebé a rencontré dans un café parisien.
Lorsqu'Iyad Al-Zarkan commence ses études en France en 2010, il a déjà en poche son billet retour pour la Syrie. Il n'a jamais pu s'en servir.
J'ai toujours les billets en fait. Souvenir de 13 ans et 7 mois.
Les premières manifestations anti-régime éclatent dans sa ville d'origine, à Dera. Lui aussi manifeste, mais à Paris, il essuie des menaces de mort, est épinglé comme opposant. À 19 ans, il obtient l'asile en France.
La langue, c'était vraiment un mur. J'avais pas de vie sociale du tout. C'était vraiment dur.
Mais 13 ans plus tard, malgré la chute de Bachar al-Assad, il n'est plus question de retour pour le trentenaire.
Pour moi personnellement, je crois que c'est trop tard. J'ai fait un bon commerce, je suis futur marié d'une Française et moi j'ai déjà fait ma demande de naturalisation. À cet âge-là, je connais la France, mi classée.
Le jeune homme n'imagine pas reconstruire sa vie en Syrie. Mais dès qu'il aura changé de statut, puisque celui de réfugié l'en empêche, il sautera dans un avion.
Bien sûr que je vais retourner en Syrie, regarder mes souvenirs, visiter mes amis qui sont toujours en vie et passer au cimetière.
Iyad ne peut retenir ses larmes. Le trentenaire a perdu de nombreux camarades de classe et voisins.
Et le reportage de Marie Casadebé.
Elle a couvert le Proche-Orient toujours avec une grande exigence pendant de nombreuses années pour RFI.
Et on a appris la disparition de Dominique Roch à l'âge de 70 ans. Certains d'entre vous se rappellent sûrement de ses années de correspondance, notamment à Beyrouth. Elle y a couvert la guerre du Liban ou encore à Jérusalem. Elle avait été nommée envoyée spéciale permanente d'RFI en 2002. Toujours très bien informée, Dominique Roch a couvert avec beaucoup de professionnalisme et de talent l'histoire de cette région. RFI a une pensée pour ses proches ce matin.
RFI.
8h10 à Paris, en France, Emmanuel Macron fait durer le suspense.
Le successeur du Premier ministre démissionnaire, Michel Barnier, devrait être dévoilé aujourd'hui en fin de journée, après le retour du président de la République de son déplacement en Pologne. Le chef de l'État qui prend donc son temps, après avoir pourtant annoncé qu'il voulait aller vite, Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a décidé de faire durer le suspense et d'utiliser au maximum le délai qu'il avait lui-même fixé pour annoncer la nomination d'un nouveau Premier ministre. Question, pourquoi ? Le chef de l'État a-t-il pris sa décision et attend-il le moment qu'il juge opportun pour l'annoncer ou hésite-t-il encore sur le nom du nouveau chef du gouvernement ? Un parlementaire proche du président avoue son ignorance et estime que c'est le secret le mieux gardé de la République. Une incertitude qui relance la machine à pronostics alors que de nombreux signaux semblaient ouvrir la voie à François Bayrou, le centriste maire de Pau, qu'Emmanuel Macron a reçu en tête-à-tête deux fois en quelques jours et qui, selon un participant à la réunion organisée à l'Élysée avec les chefs de parti, était mardi soir souriant, sûr de lui. Est-il toujours dans la course ? Ses concurrents, souvent cités, Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin, reprennent-ils du poil de la bête ? Ou Emmanuel Macron cherche-t-il une option plus à même de satisfaire les socialistes en vue d'un accord de non-censure ? L'hypothèse Cazeneuve peut-elle renaître sur le fil ? Ou un candidat surprise émerger ? La réponse est dans la tête d'Emmanuel Macron.
Valérie Gasse, chef du service politique d'RFI.
Le paludisme en hausse pour la cinquième année consécutive.
En 2023, 263 millions de cas ont été recensés. C'est 11 millions de plus qu'en 2022. C'est le constat alarmant d'un nouveau rapport de l'OMS publié hier. L'OMS qui tire la sonnette d'alarme. Cette maladie reste l'une des plus meurtrières, frappant principalement l'Afrique. Christina Okello.
Sur les 600 000 décès recensés, la grande majorité frappe l'Afrique. Une hausse due à la résistance des moustiques aux insecticides, au changement climatique et au manque de financement. Le rapport souligne toutefois des avancées. Les vaccins antipaludiques introduits dans 17 pays ont permis de réduire les taux de mortalité des 13%. De nouvelles moustiquaires renforcées par plusieurs types d'insecticides sont également déployées sur le continent pour contrer la résistance. Si l'objectif de l'OMS de réduire cette maladie de 90% d'ici 2030 reste ambitieux, des progrès notables inspirent l'espoir. L'Égypte est désormais exempte de paludisme et la déclaration des Yaoundé, adoptée en mars dernier, coordonne la lutte dans les 11 pays les plus touchés. Mais pour Adija Amani, responsable de l'introduction des nouveaux vaccins au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, il est urgent de redoubler d'efforts.
Il n'y a pas d'excuse que la malaria continue à tuer de nos jours. Nous avons tous les outils et à nous de mettre les bouchées double. Nous devons rendre la malaria, le paludisme, comme on dit en anglais, a bedtime story. Que ce ne soit plus une histoire qui empêche les enfants d'aller à l'école, mais plutôt que les enfants lisent ça dans des livres, que en cette année, il y avait ceci, il y avait cette maladie-là, ça doit faire partie du passé.
Pour sauver des vies, l'OMS mise sur une intensification des campagnes de vaccination. Le Nigeria et l'Ouganda sont déjà en tête de cette mobilisation.
Christina Okello. Enfin, alors que la COP16 sur la désertification et la dégradation des terres se tient en ce moment, la France se déclare pour la première fois également concernée par cette désertification. Environ 1% du territoire est affecté. Plusieurs solutions. Exemple, planter des haies dans les champs pour faire revenir la biodiversité. Reportage Jeanne Richard.
Sur le plateau de Saclay, battu par le vent et la pluie de décembre, un groupe d'étudiants paysagistes est venu planter une haie sur une parcelle agricole.
Ça tient chaud. Surtout avec le vent, on se réchauffe bien comme il faut.
Il travaille sous la direction d'Antonin Mercier, conseiller agroforestier.
On a du cornouiller sanguin, on a du noisetier, aussi quelques petits fruits, donc un peu de framboisier, un peu de groseillier et cassissier.
En tout, une quinzaine d'essences d'arbustes et d'arbres qui permettent de faire revenir insectes pollinisateurs et oiseaux chasseurs de ravageurs.
Forcément, on amène des habitats et des ressources et donc on favorise la biodiversité. Ça fait partie des multi-services que peut rendre la haie, quoi.
Car les haies permettent aussi de nourrir le sol et éviter l'érosion, explique Alexia Beaujeu, spécialiste en agroécologie.
Le fait de planter des arbres en bordure de parcelles, ça va améliorer les flux de nutriments dans le sol, puisque les racines des arbres vont permettre d'aller chercher plus loin que les racines des plantes cultivées ces nutriments-là pour les rendre disponibles pour les plantes. Et on est dans une région où on a énormément de pluies intenses et ces plantations, elles vont permettre de ralentir le ruissellement et de retenir le sol.
La France a lancé l'année dernière un plan haies pour gagner 50 000 km de haies chaque année d'ici 2030.
Le reportage de Jeanne Richard.
Et le journal de Jeanne Bartoli. 8h15 à Paris, prochain rendez-vous avec l'information dans un quart d'heure. Mais d'abord, reportage en Géorgie, à Tbilissi, aux côtés des manifestants qui se rassemblent chaque jour. Et puis, notre question d'environnement, pourquoi c'est important de laisser du bois mort dans la forêt? Eh bien d'abord, c'est bon pour la santé des sols et ça compte. Lucille Gimbert nous en dira plus dans 10 minutes. À la une de la presse internationale, Frédéric Couteau, comment la drogue déferle sur les campagnes françaises?
Une enquête à lire dans le Figaro, c'est une lèpre qui s'est propagée à bas bruit, écrit le journal. Au fil des années, de manière insidieuse, elle a grignoté le territoire, enjambé les frontières des cités sensibles, des grandes agglomérations, pour éclabousser la campagne dans son ensemble. L'implantation géographique des points de deal révèle une France criblée de flèches empoisonnées qui distillent la mort au gré des surdoses et des règlements de compte perpétrés à l'ombre des clochers. En effet, précise le Figaro, d'après un bilan de la gendarmerie nationale, le nombre des affaires liées au trafic et aux reventes de drogue a explosé de 67% en 10 ans dans les territoires ruraux et périurbains.
Commentaire désabusé du quotidien de droite.
Lâché par les services et les transports publics, plongé dans la crise économique, la France périphérique et rurale est livrée aux gangs et aux cartels en quête de nouvelles zones de chalandise. Hachiche, cocaïne, héroïne, crack et autres drogues de synthèse. Le trafic est dans le pré et à la ferme. Les forces de l'ordre multiplient les interventions musclées dans l'arrière-pays. Début novembre, pointe le Figaro, les ministres démissionnaires de l'Intérieur Bruno Retailleau et de la Justice Didier Migaud avaient présenté un plan ambitieux pour s'attaquer au fléau. Pour une fois, un homme de droite et un socialiste tiraient dans la même direction. La chute de Michel Barnier les a arrêtés dans leur élan. Dommage.
Aux États-Unis, cela fait des années que le trafic de drogue s'est propagé dans les campagnes les plus reculées.
Le New York Times nous emmène à Louisa, au Kentucky, petite ville d'environ 2600 habitants située à la frontière de la Virginie-Occidentale, une région en proie à la pauvreté et au cœur de l'épidémie d'opioïdes du pays. Toutefois, lueur d'espoir, le Kentucky oriental est l'un des endroits où on a le plus de chances de mourir d'une surdose, mais aussi où on a le plus de chances de recevoir un traitement. En effet, relate le New York Times, les centres de désintoxication se sont multipliés à Louisa, puis dans toute la région. Nombre d'entre eux ressemblent davantage à des centres communautaires ou à des églises qu'à des cliniques médicales, offrant non seulement des services de soins, mais aussi des services spirituels et logistiques dans le but d'aider les toxicomanes à trouver un emploi et à se réinsérer dans la société. L'État du Kentucky compte plus de lits de traitement résidentiel par personne que tout autre État du pays. Et cette année, le nombre de décès par overdose a chuté de 20% par rapport à l'année dernière.
À l'origine de ce retournement, un homme, pointe le New York Times.
Oui, Tim Robinson, qui s'est installé dans cette petite ville de Louisa en 2005, ancien alcoolique, et qui a fondé un premier centre, puis d'autres, d'abord avec l'aide de sa famille et de dons, puis ensuite avec le soutien de l'État. Résultat, ces centres de désintoxication sont désormais le premier employeur de la région, où comment, remarque le quotidien américain, une terrible crise sociale, le fléau de la drogue, est devenue la principale source d'opportunités économiques de cette région du Kentucky.
À lire également ce coup de gueule dans le Times à Londres contre l'attribution de la Coupe du Monde de foot 2034 à l'Arabie Saoudite.
Un scandale et une mascarade, s'insurge le quotidien britannique qui ne mâche pas ses mots, qualifiant le patron de la FIFA, la Fédération Internationale de Football, Gianni Infantino, de plus grand pervers de l'histoire de l'administration sportive qui a vendu le foot aux Saoudiens, une deuxième Coupe du Monde au Moyen-Orient après celle du Qatar en 4 éditions, sans contestation. Sans questionnement, sans opposition. Et le Times de tirer à boulet rouge également sur le régime saoudien. Si Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, était renversé demain et que des libérateurs parvenaient à pénétrer dans les prisons et les centres d'interrogatoire de son pays, à quel point serait-il différent de ceux que l'on découvre aujourd'hui à Damas, s'exclame le quotidien britannique. Nous serions sans doute horrifiés par les mêmes corps émaciés et brisés, les mêmes trous noirs, les mêmes broyeurs, les mêmes instruments de torture.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale, à retrouver comme chaque jour, vous le savez, sur toutes les plateformes d'écoute. La colère continue de s'exprimer en Géorgie. Hier soir encore, ils étaient des milliers rassemblés dans les rues de Tbilissi, comme depuis deux semaines, pour dénoncer la politique pro-russe menée par le gouvernement et le gel du processus d'adhésion du pays à l'Union européenne décidé par les autorités. Un mouvement qui dure, spontané, sans réelle organisation ni porte-voix, mais qui est lourdement réprimé par les autorités. Régis Janté, reportage.
Il est minuit, la température avoisine les 0 degrés. Quelques jeunes, dont Guilla, qui fait du marketing, ont monté un mini-stand pour servir gratuitement café, thé, petits gâteaux.
Je suis juste un volontaire qui a rejoint ses amis. Cette table n'est qu'une affaire de quelques personnes qui se sont réunies. Et oui, pour participer au mouvement et le sens du devoir.
Cette initiative est à l'image de toute cette contestation qui s'exprime depuis deux semaines. Ce mouvement qui dure comme aucun depuis l'indépendance du pays en 1991 se caractérise par son absence de direction. C'est ce qui frappe le sociologue allemand Hans Gutbrot, installé en Géorgie depuis une vingtaine d'années.
C'est un moment extraordinaire, inédit ici. C'est totalement spontané, il n'y a pas d'organisation centralisée. Certains apportent de la nourriture, d'autres font du feu pour réchauffer les manifestants. C'est vraiment de l'auto-organisation, c'est impressionnant. Cela rend le mouvement très résilient, mais cela pose la question de savoir où va le mouvement.
Le mouvement s'invente et se réinvente chaque jour, s'adapte aux faits et gestes du pouvoir et de ses forces de l'ordre, comme ce samedi 7 décembre, lorsque le pouvoir a employé des supplétifs, des bandits cagoulés, pour exercer des brutalités contre des journalistes et des opposants. Dans la foulée, des milices d'autodéfense se formaient spontanément.
Quoi, les bandits ? Salauds ! Salauds !
La contestation s'adapte en permanence à son ennemi tout en veillant à rester dans la légalité et la non-violence. L'énergie est là, mais le mouvement tend à s'essouffler à cause de la fatigue, des arrestations arbitraires et des brutalités policières, peut-être aussi à cause de l'absence de direction pour canaliser les énergies. Mais qu'importe, nous dit Hélène Rochtaria, une femme politique d'opposition de premier rang.
Ce mouvement a une direction claire. Le peuple géorgien veut l'Europe. Nous avons une présidente qui est une sorte de symbole de cette volonté. Nous avons une opposition qui est unie. Et nous avons le peuple qui veut de l'Europe. Donc la configuration de lutte que nous avons n'importe pas vraiment.
La présidente Salomé Zourabichvili s'est peu à peu imposée comme une figure centrale du rêve d'Europe des Géorgiens. Mais la diplomate de carrière qu'elle est, qu'elle a été au service de la France, n'a pas encore terminé sa mue vers la politique. Et le temps de l'histoire s'accélère partout dans l'ancien espace soviétique, sous les coups de boutoir d'un Vladimir Poutine pressé.
Et on va où ? Vers l'Europe ! Et on va où ? Vers l'Europe !
Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Tbilissi, où il est 11h22. On en vient à présent aux États-Unis et ce nouvel épisode qui concerne Alex Jones, cet influent animateur complotiste et fervent militant trumpiste, lui qui a créé Infowars, un site connu pour ses contenus conspirationnistes. C'est dessus notamment que la fusillade de 2012 dans l'école élémentaire de Sandy Hook avait été qualifiée de canular. Eh bien, ce site Infowars avait été vendu aux enchères aux médias satiriques The Onion. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Guillaume Nodin, un juge fédéral vient d'annuler la vente.
Oui, enfin un juge respecte la loi. C'est la réaction d'Alex Jones après la décision du juge fédéral texan Christopher Lopez. Le juge estime que même si tous les acteurs ont été de bonne foi, le processus mis en place pour céder Infowars manquait de transparence et il demande à l'administrateur judiciaire de trouver une nouvelle solution pour assurer la cession du site d'Alex Jones, figure notoire de l'extrême droite américaine et volontiers complotiste. Il a notamment vendu des compléments alimentaires pendant la pandémie de Covid-19.
C'est une victoire, Guillaume, pour Alex Jones.
Oui, ou au moins un répit dans une très longue et emblématique bataille judiciaire. Alex Jones s'est distingué pour avoir nié sur son site Infowars la réalité du massacre de l'école élémentaire de Sandy Hook en 2012. La fusillade perpétrée par un ancien élève avait causé la mort de 26 personnes, dont 20 enfants âgés de 6 à 7 ans. C'est un traumatisme dans les esprits aux États-Unis. Aujourd'hui encore, il est très difficile aux personnes concernées par l'affaire, même les journalistes qui l'ont couverte, de maîtriser leur émotion au moment de l'évoquer. Les familles des victimes avaient poursuivi Alex Jones en justice pour diffamation et elles ont fini par gagner. Alex Jones a été condamné à payer près $1,5 milliard de dommages et intérêts. C'est le même juge qui lui avait ordonné au mois de juin dernier de vendre ses actifs pour payer cette somme colossale qui vient d'annuler la vente d'InfoWars.
Et alors, pour quelle raison ?
Eh bien, l'offre de The Onion, soutenue par les familles des victimes de Sandy Hook, il faut le préciser, était d'un montant inférieur à celle d'une compagnie apparentée à Alex Jones. En clair, cette société était prête à payer plus que les familles pour que Alex Jones puisse continuer à diriger et à publier InfoWars. Mais l'administrateur chargé de la vente des actifs d'Alex Jones avait initialement estimé que dans ce cas précis, l'intérêt des familles ne correspondait pas forcément à la somme la plus élevée. C'est ce que le juge a refusé. The Onion dit sa déception, mais explique aussi son intention de continuer à tenter d'acquérir le site, ses abonnés et sa diffusion, afin d'en faire un site satirique et moquant son créateur d'extrême droite, un site dont le premier annonceur publicitaire serait une organisation de lutte contre la violence armée.
Guillaume Naudin, envoyé spécial permanent de RFI à Washington.
RFI Matin.
8h25 à Paris, lors de notre question d'environnement, comment le bois mort est-il source de vie avec nous ? Pour tenter d'y répondre, Lucille Gimbert, alors que la COP16 contre l'appauvrissement des sols se poursuit à Riyad en Arabie Saoudite, Lucille, on s'arrête ce matin sur le rôle essentiel que jouent les arbres et arbustes en fin de vie pour la bonne santé des sols, justement, et pour le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers.
Oui, on a tendance à retirer le bois mort alors qu'il ne faudrait pas en réalité. Du bois mort, il y en a en forêt, par exemple, après les tempêtes, les incendies, ou lorsque l'humain a décidé d'éclaircir la forêt. Là où il y en a vraiment, vraiment beaucoup, c'est dans les forêts dites en libre évolution. Là, le cycle de la nature s'y fait spontanément, sans intervention humaine. Il y a donc des arbres de tous les âges, certains très, très vieux, et on ne retire pas le bois mort.
C'est le cas, Lucille, dans la réserve de la Massane, une forêt très ancienne dans le sud de la France que vous avez pu découvrir.
Oui, et là, le résultat est spectaculaire. À la Massane, près de 50% de la biodiversité est liée à la présence justement de ces très vieux arbres et de ce bois mort. On est, vous l'entendez, au milieu de grands hêtres verts qui frémissent avec le vent. Au sol, il y a énormément de branches, de troncs, de restes d'arbres. Et avec nous, Joseph Garrigue, l'ancien conservateur de la réserve.
C'est un foisonnement de vie, en fait. Il n'y a pas qu'au sol. Donc vous allez avoir des communautés complètement différentes dans les arbres qui se décomposent sur pied. Et puis ceux qui sont au sol, où il y a plus d'humidité, il y a énormément d'espèces qui vont profiter de cette matière que sont les arbres pour reminéraliser la matière, en fait, et la redonner à la forêt et permettre le cycle complet.
Les larves d'insectes, par exemple, se nourrissent du bois mort. Elles y vivent donc plusieurs années, ce qui attire les oiseaux et les chauves-souris. Les souches et morceaux d'arbres tombés servent d'abri aux amphibiens. Les arbres morts restés debout, eux, servent de support aux mousses et aux champignons. Il y a notamment une infinité de champignons invisibles sous terre et dans le corps des arbres qui servent au bon fonctionnement de la forêt.
Et alors, en quoi le bois mort est-il bénéfique pour les sols ?
Eh bien, c'est un fertilisant naturel. Sa décomposition par la microfaune du sol et puis par les bactéries entraîne la libération des éléments minéraux contenus dans le bois. Et cela, avec la chute des feuilles, participe à la qualité chimique des sols forestiers.
Mais est-ce que le bois mort ne risque pas, Lucille, d'accélérer les incendies ?
On pourrait le penser, mais en réalité non, car il se gorge d'eau et conserve l'humidité sur les sols. Au contraire, conserver ses réservoirs de biodiversité, c'est une assurance vie pour la forêt. D'abord, dans les arbres morts, il y a plus de prédateurs capables de manger les parasites qui pourraient attaquer la forêt. Et puis, un arbre qui a plusieurs centaines d'années a vécu des périodes de sécheresse, des pluies abondantes, des maladies. Il a réussi à s'adapter à chaque fois. Et donc, dans ses branches, il y a une grande diversité génétique qui pourra aider ses descendants demain à faire face au changement climatique.
Lucille Gimbert pour la question d'environnement sur RFI. Merci beaucoup, Lucille, et à bientôt. RFI Matin, vous restez avec nous dans une minute, un peu plus même, le journal Afrique. On se retrouve juste après pour parler de l'actualité sportive avec Antoine Grenier. Et puis, reportage à Casablanca sur le henné qui est entré récemment sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Reportage donc au Maroc où la tradition est encore très forte. Restez bien avec nous.
RFI à Freetown, 89.9 FM.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
La crise politique en France a déjà de sérieux impacts sur son économie. Certains investisseurs commencent à douter et un grand point d'interrogation pèse sur le budget 2025. Pour en parler, nous recevons Michel Sapin, ancien ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui engagé dans la lutte anticorruption.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
RFI Talent présente Gabriela Lima. Découvrez Semé Chamarevou, le premier single de l'artiste brésilienne avec Vanille en invité. Disponible sur toutes les plateformes.